Je voudrais parler de notre responsabilité, mais j'aurais dû rajouter responsabilité et conséquences. Allez, alors, est-ce qu'il va vouloir? J'ai des problèmes, moi, avec mon truc, pourtant... Pourtant, des fois, ça marche. Ouais, non, mais c'est parce qu'elle l'a fait manuellement. Hein. Donc, ça va aussi manuellement, mais c'est embêtant quand ça ne veut pas fonctionner comme il faut. Bon, c'est pas grave. On ne trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne fabriquent ni épée ni lance. Chaque homme en Israël descendait chez les Philistins, et les Philistins ont toujours été les ennemis d'Israël, mais chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa pioche, sa hache, sa bêche, quand le tranchant de la bêche, des pioches, des tridents et des haches était émoussé. Et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple. Nous avons déjà évoqué deux fois ce texte. Je voudrais effectivement le faire sous l'aspect de la responsabilité des conséquences. J'entends presque. Si je me transporte, on va dire ça comme ça, hein, si je me transporte à l'époque et que je suis là spectateur, j'ai l'impression d'entendre les Israélites dire « Ah Seigneur, on n'a pas d'armes ». Pourquoi tu nous aides pas? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi on n'a pas d'armes? Regarde, les Philistins nous ont pris la possibilité de la ferronnerie, de l'art, du forgeron. Et j'ai l'impression d'entendre le Seigneur dire, mais les gars, c'est un peu de votre faute, quoi. C'est pas parce que les Philistins ont décidé que vous n'alliez plus faire des armes, etc., qu'il fallait laisser faire. Qui vous a dit de vous laisser faire? Qui vous a dit d'accepter? Et on le disait les fois précédentes, non seulement ça pose un problème au jour du combat parce qu'il n'y a pas d'armes, sauf pour Saül et Jonathan. Mais les Philistins, s'ils avaient voulu, ils auraient dit ben, « Maintenant, on ne va plus aiguiser le tranchant de leur bêche, de leur pioche, etc. Et ils vont avoir du mal à cultiver, ils vont avoir du mal à se nourrir. » Parce que la conséquence, elle peut aller très loin. Et donc, le peuple d'Israël, les Israélites ne pouvaient pas dire « Ah Seigneur, comment que tu fais? Pourquoi tu agis pas et tu n'interviens pas ?» On va passer là. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé, pardon? Un excès de vitesse. J'ai perdu tous mes points. Je l'ai trouvé mignonne. Trouvais mignonne, mais quand même perdre des points, c'est très agaçant. Mais c'est quand même pas de la faute du policier, quoi. Je sais pas comment vous êtes. Moi, ça m'est arrivé, hein, de perdre des points. Alors c'est agaçant, mais c'est agaçant au possible, quoi. C'est plus les points presque l'amende à payer, mais on ne peut pas dire c'est de la faute de quelqu'un d'autre que nous-mêmes, si c'est nous qui étions au volant. On a un problème. J'y reviendrai. Nous avons un ami, pasteur, qui, on va dire 2 ans, parce que c'est pas très vieux. Il y a 2 ans, il a doublé une voiture. Et en face de lui, il y en avait une autre qui venait. Ils ont eu un accident. Et son épouse et sa belle-sœur sont décédées dans l'accident. Et il nous disait, il me disait, j'ai dit au Seigneur, comment se fait-il que tu ne m'as pas gardé, que tu ne m'as pas préservé ? Le Seigneur lui a répondu, mais c'était ta responsabilité, il ne fallait pas dépasser. Vous savez, c'est pas. Faut regarder les choses en face, quoi. Hein. Il y a des choses qu'on n'aime pas. Choses qu'on n'aime pas regarder en face. Mais. Alors, je lui disais, mais ouf, concernant la culpabilité, ça. Ouf, ça en met un coup, quoi. Hein. Il dit, bon. En même temps que le Seigneur a appuyé sur ma responsabilité, alors que j'étais presque en train de l'accuser. De ne pas avoir agi et de ne pas être intervenu, à partir du moment où il a mis le doigt dessus et que j'ai accepté, que je lui ai demandé pardon, il m'a aussi guéri de la culpabilité. Ça ne lui a pas rendu ni son épouse ni sa belle-sœur, mais quelque part, il a dit « ok ». On peut passer. L'Éternel Dieu dit à l'homme, qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Et l'homme répondit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Mais pourquoi tu fais cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Ni l'un ni l'autre ne se sentent responsables d'avoir mangé. Pire encore, l'homme dit, « Mais c'est un peu de ta faute, hein, parce que quand j'avais pas de femme, j'étais plus tranquille. » Non, enfin, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Mais si tu n'avais pas mis la femme à côté de moi, on n'en serait pas là. J'ai l'impression que des fois dans notre vie, on en est toujours là, à vouloir accuser le policier qui nous aligne, à accuser telle ou telle personne, j'allais dire à tel ou tel frère, tel ou tel pasteur. On a toujours, alors des fois on a raison, hein, mais on a toujours, on voit jamais sa responsabilité. Enfin, il n'y a rien de nouveau, hein. Si Jésus dit, comment que ça se fait que tu vois la paille dans l'œil de ton frère et que tu n'arrives pas à voir la battance, la poutre que tu as dans ton œil, c'est que Jésus sait bien que on voit toujours chez l'autre, mais jamais ou jamais trop chez soi. Vous connaissez, hein, ça ? Vous connaissez ? Ouais. Donc si vous connaissez, il ne faut pas la peine de le dire. C'est ta faute, Seigneur. C'est ta faute si tu ne m'as pas gardé dans l'accident. C'est ta faute, Seigneur, si m'a enlevé des points. C'est ta faute, Seigneur, si, si, si. On passe. Que chacun donc s'éprouve soi-même, vous savez de quoi il s'agit, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. En fait, comment dire ça ? C'est une parole que l'on entend régulièrement. Je vais être cru. C'est une parole que l'on entend souvent et on s'en fout. Et on s'en fout parce qu'on ne le voit pas forcément au milieu de nous. On dit, c'est bien dans le temps. Les Corinthiens, ils en ont bavé. Mais chez nous... ça se passe plus comme ça. Ça se passe plus comme ça parce que Ananias et Saphira qui sont venus présenter une partie de leur offrande en essayant de tromper leur monde ne meurent pas non plus. Et des fois, on se dit bon, effectivement, dans le temps, lors de la fondation ou des premières années de la vie de l'Église, il y avait des choses qui étaient assez fortes, des jugements parfois. Mais bon, voilà, c'était pour eux. On ne voit plus ça aujourd'hui. Je ne voudrais pas parler de la scène parce que ce n'est pas le sujet. Mais je voudrais dire que... dans l'église de Corinthe, il y a eu des infirmes, des malades et un grand nombre de morts, c'était de leur faute. C'était parce qu'ils n'étaient pas conséquents avec la scène et dans la manière de prendre la scène. Je n'ai pas retrouvé la note parce que ça date de très longtemps. Nous étions encore à Lille. Nous avions des pastorales et par deux fois, un frère de Nouvelle-Zélande est venu pour nous enseigner. Ken Wright, je me rappelle encore son nom. Comment pas m'en rappeler parce que quand j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux de nous ?» Donc, il m'avait donné des grandes lignes intérieurement de ce que le Seigneur voulait pour nos vies, Daniel et moi. Et puis, ça paraissait trop grand, quoi. C'était pas possible. Et donc, Ken Ryan est venu, il a enseigné, puis il a dit, tiens, qui est-ce qui souhaite la prière ? Alors, on a été tous les deux. Et ce Ken Ryan, il a dit, tac, 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 et il m'a redit ce que j'avais reçu personnellement dans ma chambre. Et des choses qui, 40 ans après, j'attends encore de vivre. C'est pour ça que c'est des fois agaçant, hein. On attend. Bon. Et donc, j'attends aujourd'hui la réalisation de ce que j'ai pu recevoir dans ma chambre et de ce que ce frère a confirmé dans une parole de connaissance. Mais, c'est pas pour ça que je disais, ce gars, à ce même moment, enfin bref, il a dû partir s'il avait un ministère en même temps prophétique et apostolique. Enfin, donc il a dû retourner en Nouvelle-Zélande dans son église d'envoi parce qu'il y avait des problèmes et des soucis. Et juste avant de venir à Angers, il était revenu et il nous avait dit « Dans l'église dont je suis pasteur, il y a eu beaucoup de divisions, beaucoup de critiques, beaucoup de choses » qui n'allait pas. Donc j'ai dû retourner prématurément pour m'occuper de la vie de l'Église. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, et qu'un grand nombre étaient morts à cause de ces divisions, de ces critiques, de ces mésententes, etc. C'est jamais oublié. Hein. Je me suis dit, ah, faut qu'on fasse gaffe. Faut qu'on fasse attention à la manière dont nous vivons les choses. Le problème, il y a toujours eu des problèmes et des tensions dans l'Église. Hein. Les actes des apôtres nous parlent. Le problème n'est pas l'incompréhension des uns vis-à-vis des autres, c'est la manière de gérer notre incompréhension et notre manière de concevoir différemment. Concevoir différemment, ben, j'allais dire heureusement que le pasteur n'est pas là à dire « c'est comme ça qu'il faut faire » et tout le monde avance, obéit, etc. Mais parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est que dans nos différences, le Seigneur souhaite que ce soit une richesse, mais pas forcément un déchirement des uns et des autres. La parole de Dieu dit que... des fois, les gens se déchirent, se mordent les uns les autres. Et c'est ça qui pose problème. Alors, je ne dis pas que c'est seulement ça qui est la cause de maladies, d'infirmités et de décès, mais il faut qu'on y fasse attention. Et je ne suis pas non plus en train de dire qu'à chaque décès, il va falloir... savoir si, oui ou non, c'est dû à cela. On n'est pas là pour ça. On est là pour dire, mais nous avons, tout comme les Corinthiens, nous avons notre responsabilité de vivre avec le Seigneur et les uns avec les autres d'une manière correcte. Il y a là, en tout cas, un avertissement de la part du Seigneur. Il faut prendre en compte et il faudrait que ce soit un avertissement pour nous aujourd'hui. C'est pas de dire bon, c'est pas grave, on lit ça très souvent mais finalement on voit rien. Voilà, juste je me demande des fois si le Seigneur n'est pas ou ne va pas nous faire entrer dans une saison où les Ananias et Saphira et où les gens qui mangent et boivent sans discerner le corps du Christ ne vont pas être atteints. Que ta sainteté vienne et revienne, Seigneur, dans ton Église, corps du Christ, hein, c'est pas seulement dans... notre communauté, mais que nous puissions être conséquents. On va un peu plus loin. Dans le même chapitre que les versets d'introduction, qui parlent du manque de forgerons, Samuel vient et dit à Saül... « Qu'as-tu fait là ?» demanda Samuel à Saül. Et Saül répond, « J'ai vu que les soldats m'abandonnaient ou désertaient et que tu n'étais pas venu au rendez-vous. Alors j'ai pensé qu'ils allaient venir nous attaquer. C'est pourquoi j'ai pris la responsabilité d'offrir moi-même le sacrifice complet. » Et Samuel de dire, « Tu as agi comme un insensé. » Tu n'as pas tenu compte de l'ordre que tu as reçu du Seigneur ton Dieu. T'es pas venu au rendez-vous, c'est de ta faute ce qui se passe. Saül est en train de dire. On retrouve ça tout le temps. Ouais, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à être au rendez-vous, Samuel, et j'aurais pas agi ainsi. Toi, tu n'étais pas au rendez-vous. Moi, j'ai pris la responsabilité parce que j'ai vu les gens, mes soldats, déserter et partir. Et qu'en face, il y avait les ennemis. Saül était roi. C'était son ministère, son service, appelé par le Seigneur. Mais tout en étant roi, il n'avait pas le droit d'usurper le rôle de sacrificateur, et il n'avait pas le droit de faire de sacrifice. Il a usurpé une fonction à laquelle il n'avait pas été appelé. Il y a des chrétiens qui prétendent à un ministère et à un service qui parfois n'est pas le leur. Ou parfois ce n'est pas encore le temps ni le moment. Comme Saül, ils s'impatientent, ils agissent comme lui en insensé. J'en ai vu des pasteurs, je peux le dire parce que je suis pasteur, pas de soucis, hein. Mais j'en ai vu des pasteurs qui n'étaient pas des pasteurs. Ils avaient le titre, ils avaient joué des coudes, joué des relations dans les assemblées générales pour devenir pasteur, mais ils n'avaient pas le ministère. Ils avaient le titre parce qu'ils l'avaient voulu. Mais ils n'avaient ni l'appel, ni la fonction. Je dis ça, c'est pas dans le but de critiquer, c'est dans le but de... On ne peut pas faire n'importe quoi, juste parce qu'on a envie. Quand j'étais responsable d'une quarantaine d'églises en France... Quand j'ai pris ma responsabilité, je suis allé visiter toutes ces églises, et notamment une église, il y a un pasteur, et je me rappelle comme si c'était hier, on a pris une bière sur la terrasse, dans un café, on discute et je lui dis, gentiment, j'ai essayé de prendre les formes, j'ai essayé. Je lui ai dit, écoute, tu es en fonction, en situation pastorale, mais tu n'as pas le ministère pastoral. Et le gars, il s'est mis, comment ça ? Tel président de la fédération et tel autre, et tel autre. Alors, il m'en a cité 3-4 là, de gens qui étaient là pour prier, pour la reconnaissance spirituelle. Spirituelle, en tout cas de sa fonction de pasteur. Et je lui dis oui, mais tu sais, moi quand j'ai discuté avec ces personnes-là, elles me disent toutes que tu n'as pas le ministère. Il était bouleversé. Ah, il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je lui dis, ben, écoute, on va essayer de voir comment trouver... Je te propose de trouver avec toi quel est le ministère qui te convient, qui est celui auquel le Seigneur t'appelle. Laisse-moi un peu de temps, on va cheminer ensemble. 2 mois après... J'apprends qu'il a déménagé sans rien dire à personne, abandonnant l'église. Ah ouais, il n'était pas pasteur. On n'abandonne pas l'église comme ça. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, il est parti assez loin. Mais je me dis, il n'était pas pasteur. Je me rappelle d'un couple... on n'était pas très chaud, on disait mais on te voit bien comme ancien dans l'église, mais pas forcément comme pasteur, et ça a dérangé. Donc plus tard le couple est quand même parti, ils ont exercé quelque part le ministère pastoral pendant 5 ans. Et j'avais vu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, j'avais vu une personne de confiance, j'allais dire, que je connaissais bien, et je lui ai dit, tu sais, nous, on n'était quand même pas certains de son ministère, son appel au ministère pastoral. Et puis, elle me répond, ben, tu fais bien parce qu'il ne l'a pas. Il est en situation de pasteur, mais il n'a pas le ministère. Donc, ce frère vient à arrêter d'être pasteur, mais c'est pour vous dire, c'est pas simple. Il y a des gens qui aspirent. Vous ne pouvez pas vous rendre compte du nombre de personnes dans cette assemblée qui voulaient être pasteurs. Ah ouais, ouais, non, mais incroyable. Mais ça ne me dérange pas, hein. Moi, j'ai pas peur de la concurrence, j'allais dire. Hein, c'est pas, j'allais dire que j'ai pas de soucis là-dessus, quoi. Mais comme si le ministère pastoral était le summum de la vie chrétienne, quoi. Moi, je suis un frère parmi d'autres, à qui le Seigneur m'a demandé d'être pasteur, mais bon, voilà, c'est pas toujours simple. Il y a une sœur, moi, je suis resté. On avait une rencontre de pasteurs à Grenoble. L'oratrice, c'était une petite bonne femme, plus petite que moi, alors, pour vous dire. Elle a dit, elle parlait de cela, et elle a demandé qui est le pasteur qui a des sandiags, vous savez, des espèces de bottes. Alors il y en a un qui est venu, allez, viens. Donc il est venu, il est, je ne sais plus combien il faisait, 44, 45. Et elle lui a dit, on échange. Tu prends mes chaussures, moi je prends les tiennes. Donc elle a mis ses sandiags, elle a essayé de marcher. Elle se cassait presque la figure. Mais alors l'autre, il ne pouvait pas rentrer dedans, hein. C'était du 36. Et elle a juste dit, le ministère c'est pareil. Si tu ne rentres pas dans les chaussures, tu ne peux pas marcher. C'était... Wow. Ne demande pas à vivre un ministère ou un service si ce n'est pas celui que le Seigneur veut pour toi. C'est aussi simple que ça. Mais des fois, on a tellement envie et on se fait des films, etc. Enfin bon, il y a des tas de raisons pour lesquelles on usurpe. Le terme est un peu fort, hein, mais on usurpe un ministère, un service qui n'est pas le nôtre. Bon. Alors, je parle du ministère pastoral, mais je pourrais parler de la prophétie. Il y a des personnes qui veulent absolument être reconnues comme quelqu'un qui apporte la parole de Dieu parce qu'ils l'entendent, mais moi, j'ai dû reprendre à Lille, entre autres, une personne en disant « Mais arrête, quoi !» Elle n'arrêtait pas de presque tous les dimanches, ou pas tous les dimanches, mais enfin, ça venait tellement régulièrement. « Mes enfants, je suis le Seigneur, je vous dis que je vous aime. » Mais c'est une parole creuse. C'est pas qu'on s'en fout, mais on lit la Bible, on voit la même chose. Il n'y a pas besoin d'une parole prophétique pour ça, quoi. Enfin, je suis un peu cru, mais... une parole prophétique, ça doit être quelque chose qui impacte. Là, ouais, je vous aime, ben ouais. Quand j'entends ce genre de truc, je dis, ben Seigneur, je sais quoi. Mais pourquoi? Et cette parole, cette personne à Lille me disait, ah mais tu vois, il faut que le Seigneur, elle disait, ah aujourd'hui c'était un bon culte parce que le Seigneur a parlé par parole prophétique. Je dis, ben il a parlé par la louange, par l'enseignement, enfin bon, pourquoi devrait-il parler forcément par parole prophétique pour montrer qu'il est là? Tout comme notre communauté, c'est rare qu'on entende durant le culte des parler en langue. Ça peut arriver des chants en langue, etc. Mais Mais si c'est là pour prouver que nous avons, c'est l'état d'esprit qui n'est pas bon. Je vous avais dit déjà, quand j'étais tout jeune, on priait pour un jeune de 16 ans qui était malade. J'ai prophétisé qu'il allait guérir et 2-3 jours après, il était mort. Mon pasteur m'a pris, m'a éduqué, m'a montré comment il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Mais j'avais envie de tout plaquer. Par orgueil. Par orgueil. Et lorsque on dit aux frères et à la sœur, mais tu n'as pas de ministère prophétique, ta parole de ta parole ou les textes bibliques que tu donnes ne vont pas, ça ne va pas dans le sens d'eux, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui se vexent et qui critiquent, qui se cabrent. Ah, ben toi, tu n'es pas inspiré. Ah ouais, je ne suis pas inspiré, bon. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui, ici, ont prophétisé parce qu'ils avaient besoin d'exister, spirituellement parlant. C'était une recherche de reconnaissance personnelle. On est cru, hein, on est en famille. C'est juste entre nous. Je vous dis ça parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis des frères et des sœurs. Et lorsqu'on prophétise et lorsqu'on dit quelque chose qui ne se produit pas ou dont le contraire se produit, on devrait au moins avoir l'honnêteté d'aller voir les gens en disant « je me suis trompé ». Le fait de dire « je me suis trompé » permet, j'allais dire, de vivre l'humilité et la fraternité avec le frère, la sœur, et de garder la confiance. Parce qu'il y a des personnes qui prophétisent en qui on n'a plus confiance. Parce que ça prophétise de traviole et que ça ne veut pas le reconnaître. C'est ça le souci. Moi, je remercie le Seigneur d'avoir placé à côté de moi, enfin à côté de moi, ou de m'avoir placé à côté d'un pasteur qui m'a éduqué. Bon, ce n'était pas toujours simple, hein. Il y a des choses qui étaient plus compliquées, mais quand même. Est-ce que nous sommes enseignables? Donc, vouloir vivre un service ou un ministère qui n'est pas le nôtre, c'est d'entrer dans des godasses qui ne sont pas les nôtres. Et nous ne pouvons pas marcher avec des chaussures qui ne vont pas. Ne faisons pas comme Saül. Ne devançons pas, parce que je vous ai dit, hein, j'attends depuis 40 ans que les paroles que le Seigneur m'a données pour le ministère se réalisent. 40 ans, c'est long, hein. Et des fois, je lui dis, je commence à devenir vieux, grouille-toi, Seigneur. Mais si je devance l'heure, j'ai voulu le faire, et plusieurs fois je l'ai fait, en disant au Seigneur, tu veux pas, ça traîne de trop, j'y vais, suis-moi. Forcément, ça cause des problèmes, hein. Ça va pendant un temps, on a l'impression que, c'est... Voilà, ouais, et puis le Seigneur dit, je frappe à la porte et je voudrais rentrer. Parce que en devançant son heure, on l'a mis dehors et on ne lui a pas permis de vivre au fur et à mesure ce qu'il voulait qu'on vive et qu'on fasse. Encore un mot sur Saül. Ça va? Bon. On va passer. Ah, Samuel avait dit de la part de Dieu à Saül, écoute, tu vas aller en guerre, il faut tuer tous les animaux, etc., tous les Amalécites. Donc Samuel arrive et puis il dit, mais qu'est-ce que j'entends là? C'était des bêlements, des ceci. Et Saül dit, ah mais moi, avec le peuple, on a pris les meilleures bêtes pour pouvoir les offrir en sacrifice. Et Samuel dit, mais des holocaustes, des sacrifices ont-ils autant de prix aux yeux de l'Éternel que l'obéissance à la voix divine? Le Seigneur t'avait pas dit qu'il fallait les tuer, toi tu les as gardés pour les présenter soi-disant au Seigneur. Ah, l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice, c'est la soumission que la graisse des béliers. Mais la rébellion est coupable, comme la magie. Certaines traductions disent comme la divination, comme la sorcellerie. Et l'insoumission, c'est comme la désobéissance. L'insubordination, c'est comme le crime de l'idolâtrie. Puisque tu as repoussé la parole de l'Éternel, il te repousse de la royauté. Le Seigneur avait dit, et Saül n'a pas voulu écouter, pas voulu obéir. Nous avons invité un ministère prophétique. Je avais proposé à ce que cette personne vienne à un conseil d'église pour l'animer, etc. Et puis, ça se passe. Et le lendemain, je dis à cette personne, « Alors, comment tu as trouvé le conseil ?» Et elle m'a répondu, « Le Seigneur a dit, il y a de la sorcellerie dans ce conseil. » Waouh ! Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça donne, quoi. Là, j'ai pris un percute droite-gauche. Sorcellerie dans ce conseil. Moi, quand vous entendez ça, ça fait bizarre, quoi. Et puis le Seigneur m'a fait revenir à ce texte. Parce que c'était quelqu'un d'anglophone et que dans sa traduction, le terme sorcellerie était bien avant la magie. On parle de magie. Et donc, elle disait que dans ce conseil, il y avait de la rébellion. Et que la rébellion, c'est comme la sorcellerie. Après, il faut gérer. Hein. Et l'insoumission ou la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. Ah, des fois, on se dit, oh, pas grave, je fais ce que je veux. Hein. On est en démocratie et dans l'Église, on demande aussi à ce que... des fois, il y a des gens qui disent, mais moi, j'ai envie de vivre ce que je veux. Et puis voilà, ça ne plaît pas au pasteur ou au responsable de groupe de maison, etc. Mais je fais quand même. Non, mais si le Seigneur a mis des frères et des sœurs en responsabilité, ce n'est pas pour rien. Je ne vais pas parler énormément de ça, mais quand je pense à ça, je pense tristement à un frère dans le Nord, toujours. Hein, parce que je parle du Nord parce que vous ne vous connaissez pas. Mais avec Daniel, on a fondé un café-bar. On avait loué un local, on l'a retapé, puis c'est devenu un lieu de dialogue, de partage, d'évangélisation. Et donc nous l'avons fait avec en collaboration avec d'autres églises. Et je pense à un jeune qui devait me succéder. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me rappelle plus de tête, mais il y a eu un froid, j'allais dire, entre lui et puis les responsables. Je ne sais pas si c'était seulement le pasteur, etc. Mais Sur le fond, il avait probablement raison, en tout cas dans la manière dont il m'apportait les choses, mais pour en avoir parlé à son pasteur, il me disait, mais oui, il a raison. Il a raison sur le fond, il n'a pas raison sur la forme. Et il s'est tellement rebellé, s'est cabré, non, j'ai raison. Donc si j'ai raison, le pasteur, les anciens, le conseil doivent accepter que j'ai raison, et ils doivent s'humilier, etc. Enfin bon, il s'est cabré, ben, il s'est perdu. Lui qui devait me succéder, il s'est tellement cabré que ça a éclaté sa famille, il a divorcé, etc. Enfin bref, on se dit, punaise, les conséquences. Des fois, vaut mieux accepter une injustice. David, il aurait pu profiter à chaque fois de tuer Saül quand il en avait l'occasion. Il ne l'a jamais fait. Je ne vous dis pas ça pour moi. Hein. Si vous avez des trucs contre moi, venez me le dire. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais il s'est tellement coincé, c'est tellement... non, j'ai raison et je veux qu'ils reconnaissent qu'ils ont tort et que c'est moi qui ai raison, que finalement, il s'est perdu. Lorsque, je vous avais dit, hein, lorsque j'étais à Lille, j'avais, moi, des problèmes de soumission importants. Le Seigneur m'a pointé là-dessus. J'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas changer. C'est ton esprit qui peut changer. Et donc, j'ai prié pendant 7 ou 9 mois, tous les jours, plusieurs fois par jour. Esprit Saint, change-moi. J'ai un problème, je n'arrive pas à le résoudre, change-moi. Parce que j'avais été voir des pasteurs, etc., pour qu'ils prient pour moi, puis ça ne... rien donné, aucun résultat. Mais là, en priant, change-moi, transforme-moi, j'arrive pas à le faire. Un matin, je me suis levé, j'ai dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est fait en moi. Et donc j'ai dit au pasteur, écoute, je crois que mon problème est résolu. À chaque fois que tu vas me demander de faire quelque chose et que je ne serai pas d'accord, je te dirai, je ne suis pas d'accord, mais je le ferai quand même, sauf que c'est toi qui seras responsable devant Dieu. Il n'y a qu'une chose que je ne lui permettais pas et que je lui ai dit, je ne permettrai jamais à ce que tu fasses signer un engagement à vie pour que les gens restent dans la communauté dans laquelle on est. Donc ça passera pas. Mais voilà, et puis voilà. Mais le Seigneur me disait, il avait un de ses arguments, quand même, hein, il est malin, il est pédagogue, on va dire. Il m'a dit, si tu ne règles pas ton problème d'insoumission, tu ne pourras jamais être apte à mon service. Tu ne peux pas demander aux autres à être soumis si toi-même t'es pas soumis. Complètement simple. C'est d'une simplicité. Wow. Donc, tout ça pour dire que nous avons, selon notre manière d'agir, de penser, nous avons une responsabilité. Je reviens et je conclue. Les Israélites n'avaient plus de forgerons. Ils ne pouvaient pas dire que c'était de la faute des Philistins, c'était la leur, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour garder la forge, pour former, ce sera un autre sujet, hein, pour former, pour transmettre. Donc ils ne pouvaient pas dire, c'est de la faute des Philistins. Mon frère, ma sœur, tu es responsable de ta vie spirituelle comme tu es responsable de ta vie sociale. Je le suis aussi et notre communauté est responsable des décisions et des directions que nous prenons. Nous ne devons pas sans cesse jeter la faute sur le Seigneur, sur les leaders ou sur quelqu'un d'autre. Seigneur, nous venons vers toi. Et nous te demandons ta grâce. Nous savons que tu es celui qui prévient. Et tu nous préviens juste pour que nous soyons prévenus. Et pour que notre attitude soit une attitude juste devant toi, et juste devant nos frères et nos sœurs, juste devant les personnes vers qui tu nous envoies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rejeter la faute sur qui que ce soit, mais donne-nous toujours de nous tourner vers toi en te demandant que tu agisses dans notre propre cœur, notre propre vie. Que l'Esprit Saint vienne, change, transforme ce qui doit l'être, notre caractère, parfois un peu difficile, compliqué. Aide-nous. Seigneur, montre-nous si nous avons usurpé un service, un ministère, si nous avons voulu exister au travers de celui-ci. Et donne-nous l'humilité de nous repentir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas d'une accusation, c'est d'être sensibilisé pour revenir vers toi, revenir sur le chemin, ton chemin, et non pas le chemin que nous avons usurpé, que nous avons pris, que nous avons volé quelque part, alors que ce n'était pas ton appel. Seigneur, tu veux qu'il y ait des changements dans notre communauté. Et si tu nous partages ce type de choses, c'est parce que tu veux que nous puissions nous mettre en marche, pas seulement en disant « Alléluia, il va y avoir des belles choses », etc., mais tu veux que nous nous mettions en marche pour changer, pour te demander de changer, de transformer les choses qui ne sont pas à ta gloire dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre communauté. Et Seigneur, pour revenir à ce que tu disais à quelqu'un de précis, au milieu de nous tout à l'heure, engage-toi. Nous-mêmes, nous voulons nous engager à être sérieux devant toi et à marcher dans tes voies. Nous voulons avoir une honnêteté spirituelle, intellectuelle, fraternelle, pour marcher avec toi selon qui tu es. Aide-nous à ne pas vouloir paraître, mais dans l'humilité d'avoir un partage des divers services, ministères, auquel tu appelles les uns et les autres pour le bien commun et pour que ton nom puisse être glorifié. Nous voulons juste te dire, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Amen.